les sciences de la Terre. Depuis les roches jusqu'au climat, c'est la structure de la planète sous toutes ses formes que prennent pour objet d'étude les sciences de la Terre. La géologie, roches, séismes, volcans et fossiles, la météorologie, atmosphère et climat, la minéralogie, localisation et extraction des minéraux, l'océanographie, vagues, marées, courants, fosses et vies océaniques, la paléontologie, plantes et animaux fossiles, la pétrologie, formation et composition des roches. De même que pour la médecine, portons à présent notre attention plus spécifiquement sur l'une des sciences de la Terre, celle des mystères des origines et de l'évolution, la paléontologie. La paléontologie repose sur l'étude des traces laissées par les animaux, les végétaux et les minéraux au cours des âges. Elle permet de reconstituer les formes de vie disparues et leur environnement, le milieu et le climat. La paléontologie se décline en plusieurs disciplines comme la paléoclimatologie, science des climats au cours des temps, ou la paléogéographie, qui étudie les variations de disposition des continents, mers, océans, au cours de l'histoire de la Terre.
Le saviez-vous ? Conflit de génération. Avant d'être mis à mal par les travaux de Pasteur, au XIXe siècle, la théorie de la génération spontanée a connu les faveurs de nombreux observateurs et scientifiques. Elle permet d'expliquer, à leurs yeux, la naissance de petits organismes. Ces derniers seraient issus de la décomposition de la matière. Les pucerons naîtraient des végétaux, les vers de la viande, les grenouilles de la boue. Jean-Baptiste Van Helmont, médecin flamand du milieu du XVIIe siècle, prétend même que les souris naissent à partir d'un tas de chiffons, en l'occurrence une chemise déchirée imprégnée de sueur humaine. Cette croyance en une génération spontanée s'appuyait sur un défaut d'observation. Alors qu'il était très facile de connaître le mécanisme de reproduction et de naissance d'animaux plus gros, les petits organismes, et encore plus les micro-organismes, semblaient naître d'eux-mêmes, sans qu'un accouplement puisse être observé.
Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, 1707-1788, est à l'origine mathématicien. Mais sa passion véritable, ce sont les sciences naturelles. Membre de l'Académie des sciences, intendant du Jardin du Roi depuis 1739, il fait de fréquents séjours sur ses terres. Là, des campagnes de fouilles et l'étude des végétaux l'amènent à proposer une théorie de la genèse de 38 espèces originelles à partir de l'idée très en vogue à l'époque de la génération spontanée. Il semble avoir admis la possibilité pour les espèces de se transformer en fonction du milieu, de la nourriture et de la domestication. En 1749 est publié le premier des 36 volumes de son Histoire naturelle, dont le but est de présenter l'origine du système solaire, la formation de la Terre, la fossilisation, les faunes et les flores anciennes. Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'Histoire naturelle en 1799, Georges Cuvier, 1769-1832, est considéré comme le père fondateur de la paléontologie. Directeur du Muséum d'Histoire naturelle en 1808, il pose les fondements des classifications des groupes animaux dans son ouvrage « Le règne animal distribué selon son organisation » 1817. C'est aussi le premier naturaliste à poser le principe de la corrélation des caractères chez les espèces animales selon lequel l'existence d'un organe précis exige pour son bon fonctionnement la présence d'autres organes qui lui sont liés. Ainsi, un mammifère à cornes possède toujours des sabots, des molaires usés, mange de l'herbe et rumine. Sa théorie est toutefois limitée par son refus d'envisager la possibilité d'une transformation évolutive des espèces, Cuvier se posant comme un tenant acharné du catastrophisme.
Le saviez-vous ? Catastrophe. Selon Georges Cuvier, la Terre a été créée il y a environ 6000 ans, une fois pour toutes, suivant les indications recueillies à partir de la Bible. Toutefois, un problème se pose à lui, celui de l'existence de fossiles. Il pourrait indiquer une évolution, celle d'espèces apparues, puis disparues de la surface de la Terre. Ceci contredirait le créationnisme. Georges Cuvier admet donc, après la création de la première fois, un certain nombre de catastrophes de grande ampleur, comme le déluge décrit dans l'Ancien Testament. À la suite de chacune d'entre elles, un certain nombre d'espèces se seraient éteintes. C'est l'explication par la théorie dite du catastrophisme. Aujourd'hui, tous les exemplaires de la faune et de la flore seraient les descendants survivants de la faune et de la flore originelle. Après les publications de Charles Darwin, le créationnisme et son corollaire, le catastrophisme, sont abandonnés par la communauté scientifique. De nos jours, seuls quelques groupes religieux l'admettent encore, sous le nom de fixisme ou de dessein intelligent.
Élève de Buffon, Jean-Baptiste de Monet, chevalier de Lamarck, 1744-1829, s'intéresse tout d'abord à la botanique. Il est l'auteur de l'article consacré à cette science dans l'Encyclopédie. Toutefois, au moment de la Révolution française, il participe à la création du Muséum national d'histoire naturelle et y obtient la chaire des invertébrés. Ses travaux le conduisent à établir un classement des espèces animales encore aujourd'hui en vigueur. Admiré pour sa monumentale histoire des animaux sans vertèbres, 1815-1822 en 7 volumes, Lamarck suscite raillerie et franche hostilité avec la parution en 1809 de sa philosophie zoologique. Il y expose sa théorie de l'évolution des espèces en fonction de l'influence exercée sur elles par leur environnement, l'utilisation ou l'abandon des organes, certains amenés à se développer, les autres à disparaître faute d'utilité, et l'hérédité des caractères acquis. Selon ce dernier point, un caractère acquis par une espèce animale ne se modifie plus et surtout ne disparaît pas. Après une formation pour devenir pasteur anglican et un diplôme de naturaliste, Charles Robert Darwin, 1809-1882, saisit sans le savoir la chance de sa vie. Il embarque en décembre 1831 à bord du Beagle, un navire destiné à explorer les côtes de Patagonie au sud de l'Argentine, afin d'en relever un tracé exact. Le voyage, véritable tour du monde austral, se poursuit jusqu'en octobre 1836. Darwin en profite pour noter sur ses carnets les informations recueillies sur les espèces fossiles et vivantes observées lors des escales, ainsi que les formations géologiques rencontrées. De retour, Darwin commence à exploiter, à analyser ce formidable fonds documentaire, mais ne publie pas encore de théorie. C'est seulement en 1859 que paraît De l'origine des espèces. Darwin y développe les thèmes de la sélection naturelle selon laquelle seuls les plus forts, les plus aptes, les plus évolués survivent et transmettent leur caractère à leurs descendants, et de l'évolution des espèces expliquant comment faune et flore ont évolué depuis l'origine et continuent de le faire. Le succès auprès du public est grand en dépit de l'opposition de l'Église qui refuse un évolutionnisme incompatible avec l'idée d'une création divine parfaite et finie effectuée en 6 jours. La virulence des critiques redouble en 1871 avec la parution de La lignée humaine, où Darwin présente l'homme en tant qu'animal parmi d'autres et le fait descendre du singe.
Un peu de technique, toujours plus loin. Les progrès les plus récents et les plus spectaculaires viennent de la découverte de la radioactivité et de l'avancée des études microscopiques, reculant sans cesse les limites de l'infiniment petit. L'utilisation du temps mis pour la désintégration des éléments radioactifs permet non seulement une datation absolue des roches, mais aussi l'étude des évolutions du champ magnétique terrestre et de la dérive des continents, estimées d'après leur paléolatitude. L'origine exacte de la vie est repoussée dans la recherche de bactéries de plus en plus infimes par leur taille. Ainsi, les restes de cyanobactéries, qui sont au nombre des toutes premières formes de vie sur Terre.
Les sciences physiques. L'étude des propriétés des corps spécifiques, ainsi que leur application dans le domaine industriel, est l'objet des sciences physiques. L'aérodynamique, action de l'air sur les corps solides en mouvement. L'astronomie, astres, corps célestes et structures de l'univers. La chimie, propriétés et comportements des corps. L'électronique, propriétés des électrons en mouvement dans le vide, en milieu gazeux ou à l'intérieur de semi-conducteurs. L'engineering, application des principes scientifiques à l'industrie. La mécanique, invention, construction, fonctionnement des machines et étude de leur efficacité. La métallurgie, comportement et transformation des métaux, fonte et affinage. La physique, nature et comportement de la matière et de l'énergie. Au nombre de ces sciences, accordons une plus grande place à l'alchimie, ancêtre de la chimie contemporaine, science dont le but est la transformation de la matière. Trop souvent méconnue, bien que née au VIe siècle avant Jésus-Christ, contemporaine de la philosophie grecque, l'alchimie se présente comme une doctrine et une pratique. La doctrine est souvent peu accessible au commun des mortels, soit par le recours au symbole, soit par un obscurcissement délibéré du propos, moyen commode d'écarter les non-initiés. Dans la pratique, l'alchimie répond à son origine grecque, la fonte du minerai transmise par l'arabe alchimia, la proportion. Il s'agit d'utiliser la fonte des métaux, principalement le plomb et le mercure, afin de parvenir à la fabrication de l'or. Au sens philosophique, il s'agit pour l'individu de se débarrasser de tout ce qui fait de lui un être pesant pour se transformer, atteindre l'esprit, l'âme, au moyen de la fameuse pierre philosophale.
Le saviez-vous ? Pierre de taille. La pierre philosophale, ou pierre de sagesse, est l'étape ultime de la quête des alchimistes. Ceux qui choisissent de se limiter aux petites œuvres produisent une substance capable de transformer les métaux vils en argent. C'est la pierre blanche. Mais certains aspirent à la réalisation du grand œuvre, une substance capable, par son seul contact, de transformer tout métal en or. C'est la pierre rouge. Ses vertus vont plus loin encore, car elle permet aussi de réaliser la panacée, un élixir de longue vie, car il guérit tous les maux. Et de ce fait même, rend celui qui la boit immortel.
Étudiant la composition et les réactions de la matière, la chimie moderne est fondée par Antoine Laurent de Lavoisier, 1743-1794. La frontière qui la sépare de la physique est très ténue, la différence s'opérant en fonction de la nature des modifications entraînées par une réaction. Une réaction chimique entraîne une modification des liaisons entre atomes. Seuls les électrons périphériques sont concernés. Au-delà, la réaction est devenue physique. Destiné à la magistrature, Antoine Laurent de Lavoisier préfère les disciplines scientifiques, mathématiques, chimie, sciences naturelles. C'est ainsi qu'il accompagne le naturaliste Jean-Étienne Guettard, 1715-1786, autour de Paris, afin de réaliser un atlas minéralogique de la France. En 1768, il devient fermier général. En 1775, il est nommé à l'un des quatre postes de régisseur des poudres et salpêtres. Résidant à l'Arsenal à Paris, Lavoisier y installe son laboratoire, pratique ses recherches et parvient à réaliser l'analyse de l'air, à identifier l'oxygène et l'azote qui le composent, puis à recréer de l'air à partir de ces deux éléments. Il entreprend un énorme travail de classification des éléments chimiques, fondé sur la distinction entre corps simple et composé, publié en 1789 sous le titre de « Traité élémentaire de chimie ». Mais la Révolution française le rattrape. En tant que fermier général, Lavoisier est condamné à mort par le tribunal révolutionnaire le 8 mai 1794 et guillotiné. Les grands chercheurs. L'avenir de la science repose sur le travail des chercheurs, passé et à venir. Certains d'entre eux donnent à leur discipline un éclat particulier, à la fois par l'importance de leurs découvertes, telles Pierre et Marie Curie, mais aussi par la leçon d'humanité qu'ils ont su donner au monde. Faisons aussi ici une place aux chercheurs plus révolutionnaires encore, à ceux qui créent leur domaine propre, ouvrent une voie nouvelle d'exploration de la connaissance de l'homme, comme Sigmund Freud avec la psychanalyse. Enfin, laissons la place aux bâtisseurs d'univers au sens propre du terme, à un Albert Einstein capable de donner au temps et à l'espace de nouvelles dimensions, d'expliquer comment être ici et ailleurs à des époques différentes, semblables, mais pas tout à fait identiques. Le médecin de l'âme, Sigmund Freud. Sigmund Freud, 1856-1939, obtient son diplôme de médecine de la faculté de Vienne en 1881, puis travaille dans un service de neurologie et met en évidence les propriétés analgésiques de la cocaïne. En 1885, année décisive, Freud obtient une bourse d'études pour Paris dans le service de neurologie du professeur Jean Charcot, 1825-1893, qui développe des travaux de recherche sur l'hypnose et l'hystérie, mais en poursuit la cause dans un dysfonctionnement du système nerveux. C'est à Freud qu'il revient d'aller plus loin, d'explorer la dimension psychologique des phénomènes. Après une année passée à l'hôpital de la Salpêtrière, c'est à Vienne que Freud ouvre son cabinet et se spécialise dans les maladies nerveuses. La naissance de la psychanalyse. Le recours à l'hypnose est abandonné au profit d'une libre parole plus propice à une thérapie réelle. C'est l'époque où Freud publie l'interprétation des rêves, 1900, et la psychopathologie de la vie quotidienne, 1901, ouvrage perçu comme choquant par l'affirmation du rôle fondamental du désir et de la sexualité, et leur irruption dans le monde de l'enfance considéré traditionnellement comme celui de la pureté et de l'innocence. Freud explique le concept de névrose lié à l'interdit opposé au désir de l'enfant à l'égard du parent de sexe opposé par l'angoisse du sentiment de culpabilité. En 1908, il fonde la Société psychanalytique de Vienne, donnant ainsi son nom à la nouvelle science. C'est après le premier conflit mondial que Freud développe pleinement sa théorie du conscient et de l'inconscient, le « moi » et le « ça », 1923. La réflexion freudienne est également centrée sur les rapports entre le père et l'enfant, à la source de la révolte du fils dans « Totem et tabou », 1913, ou « Fondement d'une religion », révélé dans « Moïse et le monothéisme », 1939. Le cas d'Anna O, première psychanalysée. Anna O est en réalité Bertha Pappenheim, 1959-1936, amie de la fiancée de Freud et traitée par Joseph Breuer, 1842-1925, intime de Freud, à qui il racontera la cure en détail. Il publie conjointement en 1895 son cas dans les études sur l'hystérie. La maladie puis le décès de son père forment le cadre du traitement de Anna O entre juillet 1880 et juin 1882. Anna le soigne avec dévouement avant de manifester des symptômes de plus en plus graves. Douleur à la nuque et au côté gauche, fort strabisme convergent s'intensifiant à chaque problème rencontré, perte de sensation des membres, enfin, peur de voir les murs s'écrouler. Breuer la soigne en alternant hypnose et calmant. La mort du père en avril 1881 aggrave les crises. La malade, parfois calme, est sujette aux hallucinations. Hurle, ne voit presque plus, refuse de se nourrir. Aperçoit tête de mort et squelette, ne comprend plus l'allemand. Par hypnose, Breuer parvient peu à peu à lui faire prendre conscience de l'origine de ses fantasmes. La tête de mort pour le choc avec évanouissement du visage émacié de son père aperçu dans une glace. Le strabisme pour la difficulté à sa demande de lui dire l'heure sur sa montre, les yeux pleins de larmes. Puis de la nommer, c'est la phase de verbalisation. Si Breuer, par l'hypnose, soigne Anna O, il appartient à Freud, à partir de son cas, de définir la psychanalyse par le rapprochement entre symptômes hystériques, sexualité et refoulement. Radium et polonium, les aventures de Pierre et Marie Curie. Pierre, 1859-1906, et Marie Curie, 1867-1934, sont le couple de scientifiques le plus connu au monde. Née Marie Slodowska, la future Marie Curie quitte sa Pologne natale en 1892 afin de poursuivre ses études de sciences à la Sorbonne. Elle y rencontre Pierre Curie, qui est déjà un physicien renommé. Ils s'aiment, se marient. Mais avant d'avoir beaucoup d'enfants, en réalité deux filles, Ève et Irène, il découvre deux nouveaux éléments capables d'émettre des radiations, le radium et le polonium. Ce dernier ainsi nommé en hommage à l'origine polonaise de Marie. Lauréat ainsi que Henri Becquerel 1852-1908 du prix Nobel de physique en 1903, Pierre et Marie Curie poursuivent leurs recherches, mais le conte de fées prend un tour tragique en 1906. Très distrait, Pierre est écrasé par une voiture à chevaux. C'est seul que Marie poursuit leur œuvre et obtient en 1911 un second prix Nobel. Pendant la guerre de 1914-1918, elle dirige les services radiologiques de l'armée. Hélas, surexposée en permanence aux radiations, Marie Curie meurt dans un sanatorium en 1934.
Un peu de technique. Bonnes ondes. Pierre et Marie Curie ont découvert le radium dans un minerai appelé Pechblende, qui contenait de l'uranium. Le radium est un élément métallique radioactif, blanc argenté, l'un des métaux les plus massifs. C'est avec le radium que Pierre et Marie Curie mettent en évidence l'existence de la radioactivité naturelle en 1903, ce qui leur vaut le prix Nobel de physique. Pour l'étude des propriétés du radium, donc de ses utilisations possibles, Marie Curie reçoit le prix Nobel de chimie en 1911. Bien que très dangereux pour les cellules vivantes, le radium est utilisé pour le traitement de certains cancers. Il investit aussi la vie quotidienne, étant utilisé pour les cadrans et les aiguilles de montre ou d'horloge, grâce à ses propriétés de luminescence. En 1909, naît l'Institut du radium, un laboratoire placé sous la double responsabilité de l'Université de Paris et de l'Institut Pasteur. Il est complété en 1920 par la Fondation Curie, dont le but est de développer les applications médicales du radium dans le domaine de la cancérologie.
Suite de la saga familiale, Frédéric et Irène Joliot-Curie. Irène Curie, 1897-1956, formée à l'étude de la physique par sa mère, épouse en 1926 Frédéric Joliot, 1900-1958, jeune physicien, élève de Marie. Ensemble, en 1934, ils découvrent moins de 40 ans après Pierre et Marie Curie la radioactivité artificielle. Leurs travaux sont récompensés en 1935, quand ils reçoivent conjointement le prix Nobel de chimie pour cette découverte. Les Joliot-Curie ont mis en évidence l'existence d'isotopes radioactifs, éléments créés par un bombardement de particules sur une feuille d'aluminium avec des rayons de polonium. Quand on l'arrête, les fines gouttes qui apparaissent sur la feuille d'aluminium sont du phosphore radioactif. La preuve est ainsi faite que de nouveaux éléments radioactifs n'existant pas à l'état naturel peuvent être synthétisés. Cette découverte majeure permet une avancée considérable dans la recherche biomédicale et le traitement des cancers. Alpha, bêta, gamma, l'alphabet de Lord Ernest Rutherford. Physicien britannique Lord Ernest Rutherford, 1871-1937, reçoit sa formation en Nouvelle-Zélande, dont il est originaire, puis à l'université de Cambridge, où il devient à son tour professeur de physique expérimentale. Ses travaux sont le fondement de toute la physique nucléaire actuelle. Si la découverte de la radioactivité revient aux Curie et à Henri Becquerel, Rutherford est le premier à déterminer les trois composants du rayonnement. Il les nomme rayonnement alpha, bêta et gamma. Poussant plus avant leur analyse, il découvre que les particules alpha sont des noyaux d'hélium. La recherche de l'infiniment petit se poursuit avec la première description scientifique d'un atome conçu comme un noyau dense autour duquel gravitent des électrons. En 1919, Ernest Rutherford réalise la première transformation artificielle de l'azote en oxygène. Il obtient en 1908 le prix Nobel de chimie, le titre de chevalier de la couronne en 1914 et devient lord avec celui de baron Rutherford de Nelson et de Cambridge en 1931. Sa carrière exceptionnelle lui vaut l'honneur insigne d'être inhumé dans l'abbaye de Westminster, dernière demeure des rois d'Angleterre, en 1937.
Un peu de technique. Petit, petit. Un atome est une particule de matière qui résiste à toute division. C'est d'ailleurs ce que signifie son nom. Atome, insécable, que l'on ne peut diviser. En réalité, ce sont les groupes d'atomes qui sont divisés, plus que les atomes eux-mêmes, autrement dit des molécules. Toutefois, les chimistes ont été amenés, au cours des expériences conduites, à envisager des réactions qui se produisent à une échelle plus petite que celle de l'atome. Une sorte de quantité minimum de matière, nécessaire pour que la réaction chimique puisse commencer. C'est ce que les chimistes nomment le poids atomique. L'intérêt est alors, non au seul niveau des atomes, mais à celui des molécules, de pouvoir repérer, lors d'une combinaison chimique, les échanges qui s'opèrent. Ainsi, en combinant une molécule de carbone et une molécule d'oxygène, la molécule de carbone échange un certain nombre d'atomes de carbone contre un certain nombre d'atomes d'oxygène, et réciproquement.
L'économie au service de la morale. Amartya Sen. Le monde de l'économie est, semble-t-il, frappé de graves troubles de la personnalité. D'un côté, l'univers des professeurs d'économie, souvent axé d'une approche inspirée par le marxisme, de l'autre, les acteurs du monde économique étiquetés adeptes inconditionnels des théories libérales. Deux positions semblent-il inconciliables, tout du moins jusqu'aux travaux d'Amartya Sen, né en 1933. Professeur d'économie à la très célèbre London School of Economics, puis à l'Université d'Oxford, Amartya Sen obtient ensuite une chaire à celle de Harvard aux États-Unis. Sa double formation en sciences économiques et en philosophie l'amène à poser le problème crucial de la morale en économie. Amartya Sen veut mettre en œuvre une économie pratique fondée sur les impératifs moraux. Son ouvrage le plus connu, paru en 2004, « L'économie est une science morale », est une véritable profession de foi. Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel récompense en 1988 les travaux d'Amartya Sen pour leur aspect novateur. S'interrogeant sur le développement des sociétés comme des individus, Sen pose le problème de la pauvreté et celui de l'individu à mettre en œuvre ses propres capacités. En ce qui concerne la pauvreté, Sen va, bien qu'il soit l'un de ses initiateurs, au-delà de l'IDH, ou indicateur de développement humain qui regroupe trois critères, espérance moyenne de vie à la naissance, taux de scolarisation et d'alphabétisation, niveau de vie. Il propose de prendre en compte un IPH, ou indicateur de pauvreté humaine, qui permet de mesurer le niveau de pauvreté d'un pays. En 2004, le seuil de pauvreté est fixé par l'ONU à 2 dollars par jour pour vivre, celui d'extrême pauvreté à 1 dollar par jour. Mais ce critère purement économique ne suffit pas pour connaître la réalité de la situation d'une personne dans les pays en développement ou PED. Il faut pour cela, selon Amartya Sen, lui ajouter d'autres indices comme les pourcentages de décès avant 40 ans, d'analphabètes, de personnes privées d'accès à l'eau potable ou d'enfants de moins de 5 ans dont le poids est insuffisant pour leur âge.
Un peu de technique. Un homme de pouvoir. En l'an 2000, Amartya Sen publie un livre fondamental intitulé « Repenser l'inégalité ». Il s'interroge sur les mesures à prendre pour éviter l'accroissement, constaté de plus en plus fort, des inégalités sociales. Elles semblaient s'être fortement atténuées pendant la période de fort développement de la croissance économique, connue sous le nom de « Trente Glorieuses », selon l'expression de Jean Fourastier, entre 1945 et 1975 environ. Mais depuis la crise, révélée et accélérée par les chocs pétroliers de 1973 et 1979, il semble que nous assistons à un retour en force des inégalités sociales, système proche de celui en vigueur au XIXe siècle, avec un net tassement des classes moyennes et un retour des très riches et des très pauvres. Dans ce contexte, Amartya Sen définit la notion centrale de capacité, c'est-à-dire pour l'individu, un pouvoir d'être et un pouvoir de faire. Le pouvoir d'être est l'exercice de sa liberté disponible à un moment considéré, comme avoir un permis et une voiture pour aller plus vite qu'à pied. Le pouvoir de faire, au sens où un permis de conduire ne sert à rien sans véhicule. Là où une simple capacité peut s'améliorer au fil du temps, parler de mieux en mieux anglais, par exemple. La capacité s'exprime dans l'instant, comme ne pas être malade le jour d'un examen. À long terme, la capacité transforme la vie. Ne pas avoir été malade permet une plus grande chance de succès à l'examen, donc une meilleure situation. Donc le fait de pouvoir saisir d'autres opportunités, d'avoir la capacité de le faire.